Alors, il est important, quand on aborde la méditation, de ne pas créer une espèce d'état intérieur, parce que nous avons lu que quand on pratique la méditation du calme mental, eh bien l'esprit doit être calme. Et alors on a une image de ce que doit être l'esprit lorsqu'il est calme. Et cette image ne correspond pas à la réalité du calme mental. Souvent, cette image, elle correspond à un esprit dans lequel il n'y a plus rien. Il ne doit plus rien apparaître. Il ne doit plus y avoir de pensée. Par exemple, beaucoup de personnes qui abordent la méditation, eh bien, elles disent, eh bien, oui, je fais le vide. Il n'y a rien à vider. Mais vraiment rien à vider quand on médite. Ou d'autres disent, eh bien, je cherche à ne plus avoir de pensée. Alors ça, c'est une chose impossible. Nous aurons toujours des pensées. Même le Dalai Lama, quand il médite, il continue de penser, quoi. C'est-à-dire que la pensée, c'est la conscience mentale. Et tant que la conscience mentale fonctionne, eh bien, l'objet de la conscience mentale, c'est les pensées. Donc, les pensées s'élèvent, continuent de s'élever. C'est sûr qu'il y en aura moins, ça va se calmer, mais il y aura toujours des pensées. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que quand on médite, eh bien, il n'y ait plus de pensée, que tant qu'on n'a pas cet état de non-pensée, eh bien, on doit se dire, oh là là, je n'y arrive pas, etc. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, ce qui est important, c'est de ne plus se préoccuper des pensées relatives au passé. Tout ce que nous avons fait hier, tout ce que nous avons fait il y a un an, il y a 10 ans, etc. Et non plus des pensées relatives au futur, tout ce qui va se passer demain, après-demain, dans une semaine ou dans un an. Méditer, Rinpo Rinpoché, rappelle souvent que méditer, eh bien, c'est s'entraîner, et le mot entraînement est important, c'est s'entraîner à être présent dans l'instant présent, et tel qu'il se présente. Et on fait l'expérience, eh bien, de ce que cet instant est. Petit à petit, la vigilance va s'installer dans l'esprit. Cette vigilance, elle va s'installer si nous avons une régularité dans la pratique. Et cette régularité, elle doit être, je suis désolé, mais elle doit être quotidienne, quoi. Si nous méditons 1 heure tous les week-ends, eh bien, il y aura très peu de progrès. Mais de la même façon que si vous voulez faire du sport ou si vous voulez apprendre un art quelconque, vous devez faire vos gammes ou vos exercices absolument tous les jours. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut passer 2 heures à méditer tous les jours. Mais avoir une régularité. Ça, c'est vraiment le secret de la pratique. Commencez, je dis ça aux débutants, hein, ceux qui viennent, voilà, je sais pas s'ils sont débutants, mais aux personnes qui viennent pour la première fois, vous que je connais, vous prenez pas ça comme je le dis. Parce que je dis, au début, il faut commencer par 30 minutes. Mais vous êtes au moins 1 heure par jour, non? Au moins.
Au moins. À peu près. Non, mais
bien.
c'est vrai.
Très bien. Non, je plaisante, hein. Mais voilà quoi. Hein. Mais au départ, oui, il faut commencer par 30 minutes et guère plus, quoi. Mais il faut se dire, eh bien, je ne vais pas me coucher si je n'ai pas fait mes 30 minutes de méditation. Alors après, trouver le moment opportun dans la journée, quand les enfants ne sont pas là, quand il y a un peu moins d'activité pour faire ces 30 minutes. Mais si on médite avec cette régularité, effectivement, il y a des choses, eh bien, qui apparaissent dans l'esprit. Il y a des choses, des expériences qui s'élèvent dans l'esprit. Et ces expériences, elles s'élèvent dans l'esprit de toute personne qui médite régulièrement. Ce n'est pas des expériences qui doivent s'élever dans l'esprit de certaines personnes parce que ces personnes sont plus douées que les autres ou elles ont une propension ou des qualités supérieures pour la méditation que d'autres n'auraient pas, par exemple. Là. Ça, le Bouddha a toujours dit que tout le monde a cette possibilité de transformer son esprit. Et méditer doit aboutir à une transformation de l'esprit, et pas seulement à une concentration sur quelque chose. Beaucoup de personnes voient la méditation comme devant apprendre à être concentré. Oui, il y a cet aspect-là, oui, il y a l'aspect vigilance, mais plus amplement que ça, il doit y avoir aussi la transformation de l'esprit. Et la compréhension du fonctionnement de notre esprit. En quoi notre esprit, tel qu'il fonctionne à l'état ordinaire, est cause de souffrance pour soi et pour autrui. Puisque toute l'objectif de la pratique bouddhiste consiste à se libérer de toute forme de souffrance. Et c'est un peu le thème de ce soir. Alors, au mois de juin ou au mois de mai, je ne sais plus, on avait dit qu'on étudierait le texte de Gampopa, le précieux ornement de la libération, le Dakpo Tarien. Et puis j'en ai parlé cet été au Portugal, là, au séminaire, j'en ai parlé à Rinpoche, et Ringo Rinpoche. Et vous savez, les Rinpoche, ils disent jamais « fais comme ci, ne fais pas comme ça », etc. Mais de temps en temps, dans la conversation, ils font passer des idées, quoi. Alors, je lui dis ça, et il me dit « oui, oh, aux États-Unis, tout le monde enseigne pour le moment, enfin, ces étudiants, tout le monde enseigne à partir de ce texte Daring Steps. » Et Daring Steps, c'est un texte qu'on vient de traduire en français, que le comité de traduction de Bodhicharya France, des gens de Nancy, de la région, etc., ils sont plusieurs, ils ont déjà traduit plusieurs ouvrages de Ringo Rinpoche. Et pour donner cette notion de voie progressive, eh bien, en français, on a donné le titre de « En route vers l'éveil ». Et en fait, c'est un lamrim. C'est ce qu'on appelle en tibétain un lamrim. Un lamrim, littéralement, ça veut dire une voie progressive. Rinpoche enseigne le dharma, donc l'enseignement. Alors, à ce sujet, s'il y a des termes qui ne sont pas clairs, dont le sens n'est pas clair, et que j'oublie de donner la traduction, surtout vous m'arrêtez, vous me dites, attendez, là, je ne sais pas trop où parler. Hein. Voilà, ça c'est important. Parce que des fois, on utilise des termes, et puis, voilà. Mais le dharma, c'est donc l'enseignement du Bouddha. Rinpoche, dans ce texte, dans cet enseignement qu'il a donné à Hambourg en 1996, je crois, eh bien, développe comment on pratique le dharma selon les trois véhicules du bouddhisme. Le petit véhicule, le grand véhicule, et le véhicule du diamant, le bouddhisme tibétain. Alors, une question de vocabulaire par rapport à ces trois véhicules. Ringo Rinpoche n'utilise plus jamais le terme de Hinayana ou petit véhicule. Parce que, avec les siècles, les tenants du grand véhicule que nous sommes, on a un peu tendance à considérer que les pratiquants du petit véhicule, eh bien, il y a un sens un peu péjoratif. Quels sont les pays qui sont les plus représentatifs aujourd'hui du Theravada, c'est-à-dire le bouddhisme des anciens, ou, comme dit Rinpoche, le Shravakayana. Shravakayana, yana voulant dire véhicule, et Shravaka, c'est une des écoles encore présentes aujourd'hui, existantes aujourd'hui, représentatives de ce véhicule. Quels sont les pays les plus représentatifs de cette forme du bouddhisme aujourd'hui? Vous avez une idée?
Thaïlande,
Laos,
Cambodge,
oui, Ceylan, Sri Lanka.
Vietnam.
Ah non, Vietnam est mahayaniste. Ah oui, complètement. C'est très proche du Zen, le Vietnam. La Birmanie. La Birmanie. Ces pays-là sont à 95% bouddhistes. Et la forme du bouddhisme existante dans ces pays est à 100% Shravakayana. Voilà. Après, vous avez le grand véhicule qui s'appuie sur les sutras. Alors les sutras, c'est les enseignements publics que le Bouddha a donnés pendant 40 ans. Les pays les plus représentatifs du grand véhicule qui s'appuie sur les sutras, c'est quoi?
Le Zen.
Le Zen, oui, le Zen japonais. Le Zen japonais, il est venu de Chine.
Hein,
donc le Chan chinois, et puis le bouddhisme vietnamien, c'est vraiment une des écoles là, mais il n'y a pas que le Zen au Japon, il y a aussi l'amidisme. L'amidisme, c'est la forme du bouddhisme au Japon qui est plus développée que le Zen. On entend beaucoup parler du Zen parce que le Zen est venu en Occident, mais au Japon c'est l'amidisme, le culte d'Amitabha, qui est plus développé que le Zen. Mais toutes ces écoles-là sont vraiment grands véhicules par rapport et qui s'appuient sur les sutras. Quelle est la différence entre le grand et le petit véhicule?
Le petit véhicule, c'est...
Vous en avez une idée de ça?
Bah, c'est, au niveau, c'est, comment dire, la proportion que ça prend. Pour le petit véhicule, c'est la libération pour soi-même. Et le grand, c'est pour soi et tous les êtres qui sont avec nous.
Ouais, ça concerne donc la motivation du pratiquant. Ouais. C'est dans la motivation du pratiquant qu'on voit la différence entre ces deux véhicules. Dans le Theravada ou le Shravakayana, ce qu'on appelait le petit véhicule, eh bien, la motivation est plus personnelle. On cherche la libération de la souffrance plutôt pour soi. Dans le grand véhicule, on ne peut pas concevoir sa propre libération sans prendre en considération la libération de tous les êtres. Donc c'est pourquoi on appelle ça le grand véhicule, parce que la motivation est plus large, plus grande. Voilà. Et puis, vous avez le Vajrayana, hein, le bouddhisme tibétain, le véhicule du diamant. Alors c'est évidemment le bouddhisme qu'on trouve au Tibet, et celui qu'on pratique ici. Il y a une école japonaise qui s'appuie aussi sur, eh bien, qui fait partie du Vajrayana. Est-ce que le Vajrayana s'appuie seulement sur les tantras, c'est-à-dire une autre forme d'enseignement que le Bouddha a donné? On a souvent l'idée que le Vajrayana, que le bouddhisme tibétain, ne s'appuie que sur les tantras. On dit c'est le bouddhisme tantrique. Ouais. Ben, c'est réducteur, parce que le bouddhisme tantrique, le Vajrayana, s'appuie sur tous les enseignements que le Bouddha a donnés, sur les tantras, et c'est la seule école qui s'appuie sur cette forme d'enseignement, initiatique avec des symboles, etc., initiation comme mode de transmission, hein. Mais le Vajrayana s'appuie aussi sur les tantras. Il y a aussi les enseignements qui s'appuient sur le Vinaya, c'est-à-dire les préceptes éthiques concernant les laïcs, concernant les moines, ça existe au Tibet. L'Abhidharma, l'aspect philosophique du Dharma existe aussi au Tibet. Donc en fait le Vajrayana est un véhicule qui couvre tous les enseignements du Bouddha. C'est extrêmement complet, on va dire. Alors, donc, Rinpoche, dans son ouvrage, En route vers l'éveil, il commence par le Shravakayana. En fait, le Shravakayana, comme en Thaïlande ou au Cambodge, pose vraiment les bases, les fondements du Dharma. Et l'enseignement le plus important dans le Shravakayana, c'est les quatre nobles vérités. Ces quatre nobles vérités sont l'enseignement que le Bouddha a donné après son éveil, mais qui forme la base de toute la doctrine, de tout le corpus doctrinal bouddhiste, y compris dans tous les véhicules. Simplement, on n'en parle pas beaucoup dans le Vajrayana. On n'en parle pas beaucoup dans le bouddhisme tibétain. En tout cas, beaucoup moins que dans le bouddhisme thaïlandais ou birman, par exemple. Or, je pense que, on devrait en parler, mais alors beaucoup plus, quoi. Parce que tout ce qui forme les particularité du Vajrayana, hein, toutes ces déités, tous ces symboles de méditation, tous ces rituels que l'on fait dans le Vajrayana, mais ce ne sont que des moyens qui doivent répondre aux quatre nobles vérités et qui doivent permettre de pratiquer selon les quatre nobles vérités. Et Rinpoche développe tout d'abord la première des quatre nobles vérités. Nous rencontrons constamment dukkha. Et dukkha, ce terme sanskrit, on le traduit par souffrance, ce qui est une mauvaise traduction. Parce que la souffrance, on voit la souffrance comme étant souffrance physique, souffrance morale, mais c'est réducteur par rapport au sens du mot dukkha. Dukkha englobe la souffrance physique, englobe la souffrance morale, mais il englobe la moindre contrariété, la moindre expérience de frustration, d'insatisfaction. Et si on ne voit dukkha que uniquement comme étant la souffrance physique ou la souffrance morale, si on n'a aucun problème physique depuis ce matin et que moralement tout va bien, on se dit qu'on n'a pas rencontré dukkha au cours de cette journée. Or, le Bouddha enseigne que tous les êtres rencontrent constamment dukkha. Donc il ne s'agit pas d'être, de rencontrer dukkha seulement quand on est malade. Mais est-ce que depuis ce matin, on s'est réveillé, on n'a pas eu des contrariétés? Est-ce que nous n'avons pas eu une insatisfaction ou des frustrations, ou quelque chose qui n'allait pas exactement comme on voulait? Moi, quand je conduis dans la région, je trouve que tout le monde, ça n'avance pas. Bon, et ben c'est dukkha. Là, je rencontre dukkha à chaque fois que je suis au volant. Bon, je plaisante, hein, mais c'est... Je veux dire, on rencontre dukkha dans notre vie quotidienne. Et là, on ne peut pas dire que depuis ce matin, on a été libre de dukkha. Sous quelque forme qu'elle est, que ce soit, mais on a été confronté à dukkha. Pas la grosse souffrance, je suis d'accord, mais ça n'allait pas toujours comme on aurait voulu que ça aille, quoi. Bien. Le but du dharma, c'est la libération de dukkha. Il n'y a pas d'autre objectif à la pratique bouddhiste. Si vous êtes là pour chercher Dieu, ça, vous êtes sûr de ne pas le trouver. De ne pas pouvoir répondre à cette question de l'existence de Dieu à travers les enseignements du Bouddha. Le Bouddha n'a rien dit à ce sujet. Il n'a pas dit qu'il existait, il n'a pas dit qu'il n'existait pas, il a gardé le silence. Et ensuite, il a expliqué que ce n'était pas une question fondamentale, mais que la question fondamentale, c'était « Est-ce que j'expérimente dukkha ?» Et est-ce que j'en ai assez de dukkha pour moi et pour autrui? Ça, c'est une question, je pense, fondamentale quand on aborde la voie du dharma. Pourquoi suis-je là ce soir? Qu'est-ce que j'attends du dharma? Qu'est-ce que j'attends de ma pratique? Et il n'y a pas d'autre objectif que de se libérer de dukkha. Est-ce que j'ai vraiment envie de me libérer de dukkha? Et ça, c'est une grosse question, eh bien, que chacun doit se reposer, et se reposer souvent. Pas seulement juste avant de s'engager dans la voie en prenant refuge, mais vraiment régulièrement, on doit se reposer cette question. Pourquoi? Parce que, comme disent les textes, nous sommes dans le samsara, dans le cycle des existences depuis des temps sans commencement, donc ça fait un bail hein, qu'on y est, si c'est depuis des temps sans commencement. Et que, au fil de ce temps, eh bien, on a négocié et on a fait avec certains aspects de dukkha. Personne ne recherche la maladie, personne ne recherche la douleur de perdre quelqu'un, ça d'accord. Mais il y a d'autres formes de dukkha, eh bien, avec lesquelles, ma foi, on négocie très bien et on fait avec. Et on se dit, c'est ça la vie, hein. C'est comme ça. On ne peut pas se libérer de toutes les formes de dukkha. Et on a du mal à imaginer quelle serait notre vie si dukkha, eh bien on en était totalement libéré. Pourquoi on a du mal? Parce qu'on ne connaît pas du tout cet état. Même quand on a l'impression d'être heureux, mais dukkha est là. Parce qu'il y a plusieurs formes à dukkha. Il y a ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance. Et ça c'est la souffrance, je dirais, la plus grossière. C'est-à-dire, et qu'on le connaît tous, la maladie en elle-même est une souffrance. Mais quand on est malade, on n'est pas heureux d'être malade. Donc c'est une forme de souffrance qui se rajoute à la souffrance, à la douleur de la maladie, à la douleur du traitement. Le fait d'être malade, ça peut entraîner aussi des modifications dans notre vie, des modifications dans notre entourage. Ces modifications-là, eh bien, ça peut être cause de souffrance. Donc tout ça, on connaît très bien, c'est ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance. Mais il y a une souffrance plus subtile. C'est la deuxième forme de souffrance, c'est la souffrance du changement. Et le Bouddha développait beaucoup la souffrance du changement, il parlait beaucoup de ça. Tout change d'instant en instant. Apparemment, pour les êtres, c'est pas quelque chose d'agréable que d'admettre eh bien, que tout est en constant changement. Notre esprit vit le changement avec dukkha. Et ça, on doit être, comment dire, on doit observer son esprit, ce que l'on ressent, ce que l'on vit comme expérience intérieure lorsque nous sommes confrontés au changement. Quand on médite, quand on réfléchit sur l'impermanence, et Dieu sait si on peut dire, si les Tibétains, les lamas tibétains rabâchent sur l'impermanence et nous pousse à vraiment expérimenter l'impermanence. Mais on a tendance à tout de suite réfléchir sur la mort, sur notre propre mort, sur ce qui va se passer au moment de la mort, ce qui va se passer après la mort, etc. On sait que tout le monde va mourir et que nous allons mourir, mais personne n'est sûr que peut-être que demain il sera mort. On n'est absolument pas convaincu de ça. On le sait avec notre tête, mais on ne le sait pas, on n'en est absolument pas convaincu. Donc méditer sur notre mort, c'est intéressant, mais est-ce que ça nous fait vraiment prendre conscience de l'impermanence? Par contre, si l'on médite sur, si l'on réfléchit sur l'instabilité de tout ce qui fait aujourd'hui nos conditions de vie, là on est obligé de constater mais qu'il n'y a rien de stable et qu'il n'y a rien de solide. Et comment réagit-on par rapport à cela? Est-ce que notre esprit est totalement heureux quand on réfléchit à cela? Ou est-ce qu'il n'expérimente pas certains aspects de dukkha en tout cas? Et ça, nous devons observer, nous devons être sûrs de ça. Pourtant, la nature de toute chose, la nature de tout phénomène est d'être impermanente. Tout se modifie d'instant en instant. On le sait. On veut bien accepter ce fait-là. Mais c'est très difficile, en fait, de l'intégrer. Parce qu'à chaque fois que l'on est vraiment confronté à l'impermanence des phénomènes, et surtout des phénomènes que l'on aime bien, alors là, dukkha s'élève assez fortement dans notre esprit. Et tout en sachant que tout est impermanent, grosso modo, tout le monde est à peu près certain de passer de Noël. Ou de se retrouver ici le mois prochain, etc. Et si on regarde bien comment on aborde cette question de l'impermanence, intellectuellement, c'est facile à comprendre, c'est facile à constater. Mais est-ce qu'on l'a vraiment intégré? Est-ce qu'on l'expérimente vraiment? Or, cette notion de l'impermanence, c'est non seulement une clé pour se libérer de dukkha, mais c'est une clé pour comprendre la nature de toute chose, pour comprendre la nature des phénomènes, ce qu'on appelle le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu, ce qu'on appelle en d'autres termes la vacuité. Et dans le bouddhisme, ça, on parle beaucoup de la vacuité. Mais la vacuité n'est pas quelque chose qui n'est pas une compréhension qui va s'élever comme ça brutalement un jour, sous forme de miracle, dans notre esprit, quoi. Ce n'est pas non plus une expérience qui va s'élever parce que Rinpoche va poser sa main sur notre tête en nous bénissant, quoi. Ça, c'est, à mon avis, plus proche de la superstition que de la réalité. L'expérience de vacuité, eh bien, il faut réfléchir sur ce qu'on appelle la vacuité, et il y a deux éléments qui nous permettent vraiment d'aborder cette réflexion sur la vacuité. La première étant l'impermanence, et la deuxième l'interdépendance de toute chose. Mais l'impermanence, eh bien, c'est une des clés pour comprendre, pour avoir une expérience de la vacuité. Donc, ce n'est pas seulement une libération, enfin, ça ne permet pas seulement la libération de dukkha, mais ça permet vraiment d'aller plus loin, de comprendre la nature de toute chose, que de réfléchir sur cette impermanence. On craint la réflexion sur l'impermanence. On a l'impression que d'admettre, de constater que tout est de nature instable et changeante à tout instant, eh bien, ça va nous rendre le monde triste, ça va nous rendre dépressif, j'en sais rien, ou nous retirer toute forme de joie. Je pense que quand on fait vraiment l'expérience de l'impermanence de toute chose, c'est très libérateur. C'est très libérateur. Parce qu'il y a quelque chose qui disparaît, et ça c'est proche de la vacuité, mais il y a une chose qui disparaît quand on intègre vraiment cette notion de l'impermanence, c'est la conception d'un moi solide. Donc, comprendre plus profondément l'impermanence, il y a une chose qui disparaît assez rapidement, c'est la peur de la mort. Et ça, c'est très libérateur. Parce qu'on comprend que cette peur de la mort, eh bien, elle concerne le moi. Et que si l'on ne découvre pas l'existence d'un tel moi, Ben, qu'est-ce qui meurt? Et ça, c'est grâce à la réflexion sur l'impermanence qu'on peut aboutir à cette expérience. Et puis enfin, la troisième forme de dukkha, eh bien, c'est dukkha, c'est la souffrance qui est liée à tout ce qui est conditionné. C'est-à-dire, en fait, que cette notion d'impermanence touche absolument toute chose. Et il n'y a pas un seul phénomène, eh bien, qui peut demeurer sans origine et sans cessation, quoi. Tous les phénomènes qui sont conditionnés apparaissent, durent un certain temps et disparaissent. Et vous ne pouvez trouver aucun phénomène qui ne soit pas de cette nature impermanente. Et ça, ça touche donc toute chose. Et apparemment, eh bien, cette forme de constatation n'est pas facile non plus pour nous. Ça touche beaucoup la souffrance du changement. C'est lié complètement à cette souffrance du changement. Et ça, donc dukkha. Maintenant, il y a des tas d'éléments dans notre vie quotidienne, et bien comme je disais tout à l'heure, auxquels on s'est habitué et on accepte dukkha. On accepte que ces éléments-là, et bien soient inconfortables, on fait avec, voire on négocie avec. Ben, je crois qu'un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui dit non. Franchement, qui un jour dit vraiment non à dukkha, mais sous toutes ses formes, pas seulement la grosse souffrance, maladie, physique ou mentale, mais à toute forme de dukkha, mais dans son quotidien, dans son quotidien. Pour cela, eh bien, il faut être assez conscient, suffisamment conscient, de l'apparition de dukkha dans notre esprit. Et qu'est-ce qui fait que dukkha apparaît dans notre esprit? Eh bien, c'est la saisie. C'est le fait de cristalliser, c'est le fait de solidifier, c'est le fait de s'agripper, hein, ou de rendre solide, eh bien, tout ce que nous vivons et tout ce qui s'élève dans notre esprit. Combien de souffrances vivons-nous à cause des pensées? À cause des pensées de ce que nous avons vécu dans le passé? À cause des pensées de ce que l'autre nous a fait il y a 20 ans de ça? Il y en a qui sont toujours dans la haine, qui sont toujours dans le désir de vengeance, la rancune, etc. Mais combien souffrons-nous aussi à cause de pensées par rapport à tout ce qui va, soi-disant, se passer dans le futur? Notre appréhension, notre angoisse, nos peurs, etc. Ce qui va se passer quand je vais vieillir, comment ça va se passer? C'est pas marrant, mais ce ne sont que des pensées. J'ai le temps de voir ça quand j'y serai, quoi. Bien sûr que je peux me préparer, mais quelle est la réalité? Pour le moment, ça va encore. Bon, bah, apprécions le moment présent, quoi. Mais c'est juste une pensée par rapport à ce qui risque de se passer. Est-ce que c'est la pensée elle-même qui est cause de dukkha, ou est-ce que ce n'est pas le fait de saisir et de s'agripper à cette pensée? Et ça, il faut absolument observer encore, encore et encore. Les anciens qui viennent là depuis plusieurs années, vous dites, vous devez penser sans doute que je raconte toujours la même chose, mais c'est vraiment la seule cause de dukkha, c'est cette saisie, quoi. Et ça, nous devons absolument être certains de ça. Nous ne devons pas être certains parce que les textes le disent, parce que le Bouddha l'a dit, tout ça. Le Bouddha a dit, ne croyez rien de ce que je dis. Authentifiez par votre expérience de la pratique si ce que je dis est vrai ou pas. Et encore 2600 ans après, encore aujourd'hui, nous devons toujours, eh bien, avoir cette façon d'aborder le dharma, d'aborder les instructions du dharma, du Bouddha, en les mettant en pratique. Si nous constatons qu'elles ont un sens pour nous, mettons-les en pratique et authentifions les enseignements du Bouddha. Que par notre expérience, nous puissions dire ce que le Bouddha a dit, ce que le Dalai Lama aujourd'hui dit, ce que Rinpoche dit, ce que tel maître en qui nous avons confiance dit, oui, j'ai confiance dans ces instructions-là, parce que je les mets en pratique et je vois que ça fait naître telle ou telle expérience. En d'autres termes, il n'y a pas de place pour la foi dans notre pratique. Mais par contre, il y a de la place pour la confiance. Et cette confiance, elle doit se construire. Il y a une fois au Portugal avec le Motsiring, Rinpoche nous dit, mais pourquoi vous ne traduisez jamais départ en tibétain par faith? Et moi je dis, je traduis jamais par foi. Et Tsering disait, que je sais pas comment on dit foi en portugais, mais elle disait, non, et Rinpoche disait, mais pourquoi? Et on lui a expliqué un petit peu comment c'était avoir foi, ce qu'on voulait dire en Occident, quoi. Ça se discute pas, ça se prouve pas, voilà, il faut accepter. Voilà. Ah, mais Rinpoche a dit, mais départ en tibétain, c'est pas ça du tout. Alors on dit, ben oui, c'est pour ça qu'on ne traduit pas par foi, on traduit ça par confiance. Et la confiance, c'est une attitude intérieure qui se construit, et qui se construit par notre expérience. On doit avoir la certitude du dharma, la certitude de l'enseignement, par notre expérience, par notre pratique. Pourquoi je disais ça? J'ai perdu le...
Il n'y a pas la foi, il y a la confiance.
Ouais, mais avant, qu'est-ce qui m'a amené
oui,
à parler
pourquoi, hein? Ma vie, c'est ça. Pourquoi ça a amené ici?
Oui, pourquoi j'ai parlé de ça?
Parce que le Bouddha disait qu'il ne fallait pas accepter...
Oui, mais j'ai fait cette digression, mais avant, je ne sais plus... Dukkha et la saisie. Voilà. Quand on dit que c'est la saisie qui est à l'origine de Dukkha, eh bien, nous devons en être sûrs par l'observation de notre esprit. Quand on médite, il ne faut pas simplement être là comme ça, dans la non-distraction. Mais si vous n'êtes pas sûr que c'est la saisie qui est à l'origine de Dukkha, mais passez des heures et des heures à méditer en saisissant tout ce qui passe. Mais entraînez-vous à cela, quoi. Faites être une pensée par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé et qui vous a fait souffrir, et saisissez bien cette pensée-là pendant 10 minutes et voyez ce qui se passe après, quoi. Voyez ce qui se passe, voyez comment est votre esprit au bout de 10 minutes. La douleur, le ressentiment ou je ne sais quoi, l'angoisse, etc. Eh bien, ça réapparaît dans l'esprit. Mais associez Dukkha qui apparaît à partir à cette saisie. Et pour en être sûr, faites naître, dans un autre exercice, faites naître ce même type de pensée, mais ne saisissez pas. Ne saisissez pas. Regardez-la juste passer. Voyez-la, rappelez-vous qu'elle est totalement impermanente, et que si je ne la saisis pas, c'est-à-dire que si je la regarde plus loin, si je regarde plus loin, au-delà de cette pensée, la pensée, elle va faire ça. Une minute après, vous ne savez même plus à quoi vous pensiez. Elle a totalement disparu. Regardez le nombre de pensées que l'on a eues depuis ce matin. Elles sont où? Elles sont devenues quoi? Est-ce qu'elles sont toujours dans notre esprit? Voilà. Avec ces deux exercices, et entraînez-vous vraiment jusqu'à avoir une certitude. Avec ces deux exercices, eh bien, vous faites l'expérience que ce n'est pas la pensée qui est à l'origine de Dukkha. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée, de pensée négative ou de pensée positive. C'est uniquement la saisie de ces pensées qui fait naître Dukkha. Quand on est sûr de cela, alors après que vous pratiquiez les sutras, que vous pratiquiez les tantras, peu importe, toutes les pratiques que vous allez faire, elles vont se porter sur le déracinement de cette saisie égotique. Et à ce moment-là, la pratique, eh bien, ça peut se développer très vite, parce que on va à la cause de Dukkha. Et ça, c'est la deuxième noble vérité qu'on développera plus le mois prochain. Mais il faut aller à la cause de Dukkha. Si on ne reste qu'à la première noble vérité, sans comprendre la cause, comment comprendre la cessation, la troisième? Et comment comprendre le chemin qui conduit à la cessation? Mais au départ, faut-il encore avoir vraiment la motivation de se libérer de Dukkha? Et je pense que ça, c'est un point sur lequel on doit vraiment revenir encore et encore, parce que sinon, eh bien, on méditera, on mettra en pratique le dharma quand on sera vraiment dans Dukkha. Parce que là, on se souviendra, oh ben, qu'il y a un homme appelé le Bouddha il y a 2600 ans, eh bien, qui a développé tout un enseignement pour se libérer de dukkha. Et comme on souffre, alors là, oui, qu'est-ce que je peux bien mettre en pratique? Alors on vient, la main, donnez-moi vite une instruction, je bois le bouillon, il faut que je m'en sorte. Mais quand on ne boit plus le bouillon et que tout va bien, hein. Et le dharma, ben, on y pense beaucoup moins. La régularité dans notre pratique, vous savez, et c'est pas au vieux sage qu'on apprend à faire les grimaces, hein, mais la régularité dans notre pratique, elle doit être sous-tendue par une motivation mais constante. Et cette motivation, elle doit être entretenue. On imagine que la motivation, c'est quelque chose qui, une fois qu'elle est dans notre esprit, elle est toujours là. Mais ça fait 30 ans que je suis moine, il y a des personnes que j'ai connues qui étaient extrêmement investies dans le dharma, mais qui ne sont plus du tout dans le dharma, qui ont tout quitté, qui ont tout balancé, tout, et qui sont tout à fait dans autre chose. Ça veut dire que la motivation, c'est aussi un des phénomènes. Elle est aussi impermanente, elle est aussi instable. Donc il faut la cultiver encore et encore. Et d'autant que le chemin, eh ben, il n'est pas toujours facile, quoi. Il y a des fois, la méditation, c'est un peu... barbatif. Et là, la motivation, eh bien, elle peut en prendre un coup. Donc, il faut savoir pourquoi on est dans le dharma aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'on fait là ce soir, quoi. Et nous ne sommes pas de famille bouddhiste. Si nous le sommes devenus, pour ceux qui le sont devenus, ben, qu'est-ce qui nous a poussé à le devenir? Qu'est-ce qui nous a motivé à suivre ce chemin? Qu'est-ce qui nous a poussé à devenir moines, ceux qui sont devenus moines? Mais attention, il faut maintenir cette réflexion et cette motivation, parce que sinon, on devient ce que j'appelle des vieux routards du dharma, c'est-à-dire des fatigués du dharma, quoi. Des personnes qui, bah, au bout de 15 ans, 20 ans, ne veulent plus faire les efforts nécessaires pour continuer le chemin. Et parce que la motivation, bah, elle n'est plus présente. Et dukkha, ce n'est pas seulement les circonstances désagréables de notre vie, mais c'est aussi les phénomènes intérieurs de notre esprit qu'on appelle les facteurs perturbateurs. Est-ce que on voit les facteurs perturbateurs comme étant de la nature de dukkha? Pas pour tous, à mon avis. La colère, l'aversion, la haine, c'est assez facile de voir dukkha présente dans ce facteur perturbateur. Personne ne peut dire, quand on pique une bonne colère, « Oh, je suis en colère, mais qu'est-ce que je suis heureux, quoi !» Et on voit bien que les effets de notre colère, ça ne rend pas vraiment heureux notre entourage, hein. Et ça, il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus, on a tous fait l'expérience de ça. Donc c'est assez facile de voir la présence de dukkha dans ce facteur perturbateur. C'est assez grossier, quoi. Mais dans le désir et dans l'attachement, ça c'est plus difficile. Le désir-attachement, c'est ce qui domine le monde humain. Le monde animal, c'est l'opacité mentale, hein, la lourdeur d'esprit, là, l'indifférence. Le chat qu'on a ici, il dort 18 heures par jour. Ben, c'est ça, c'est l'indifférence. Pour lui, c'est dominant dans son monde. Il doit trouver ça, mais vraiment très bien, quoi. Il doit se complaire dans le fait de dormir. Voilà. Mais comme nous, on se complaît dans le désir et dans l'attachement parce que c'est dominant dans notre monde. Alors ça, c'est plus subtil. C'est plus difficile avoir dukkha dans ces deux facteurs perturbateurs. Et nous devons observer notre esprit. Quand nous sommes dans un désir insatisfait, est-ce que l'on peut dire qu'on est totalement heureux, quoi, en paix? Est-ce que nous sommes totalement en paix lorsque nous sommes dans l'attachement? Et alors, pour travailler sur l'attachement, hein, pitié, ne commencez pas à travailler sur l'attachement que vous pouvez avoir pour vos enfants si vous avez des enfants, hein. Parce que ça, c'est vraiment la forme d'attachement plus développée. Commencez par l'attachement que vous pouvez avoir pour vos bibelots, quoi. Pour les petites choses de notre vie quotidienne, pour le personnage qu'on se représente et qu'on aime bien montrer dans la société, à l'attachement qu'on peut avoir pour notre place dans la société, ou etc. Des choses comme ça, sur lesquelles il est plus facile déjà de travailler. Il y a un jour, quelqu'un est venu et qui m'a dit « Ah, moi je n'ai aucun attachement. » Alors ça, je ne crois pas vraiment quelqu'un qui peut me dire « Ah, je n'ai aucun attachement. » J'avais envie de me lever et de faire semblant de rayer sa voiture. Là, j'aurais vu tout de suite si n'y avait pas d'attachement. Hein? Voilà. Parce qu'en général, il y a une forme d'attachement assez, assez forte. Hein? Voilà. Mais essayons de voir comment est notre esprit quand nous sommes dans le désir, insatisfait, dans ce, et dans cet attachement. Et quand on parle du désir, hein, vous le savez, mais on ne condamne pas le plaisir, quoi. Le plaisir, c'est quelque chose, mais qui peut être vécu tant que le plaisir est là, eh bien, vivons-le, quoi. Il n'y a aucun problème. Le problème vient quand on commence à s'attacher au plaisir. Donc le désir, à ce moment-là, naît, le désir de renouveler l'expérience agréable, le désir de prolonger l'expérience agréable et de retrouver les conditions pour revivre cette expérience. Et ça, c'est véritablement l'attachement. L'indifférence, c'est aussi difficile à voir, la présence de dukkha dans l'indifférence. Après tout, quand on est indifférent à une situation douloureuse que vit telle ou telle personne, on se sent à peu près protégé et à peu près dans la paix. Hein. Et l'indifférence, vous savez, c'est assez puissant. Hein. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il a fallu quand même qu'on voit à la télé un petit gamin de 3 ans mort sur une plage pour qu'on commence à se bouger, quoi. Il n'y avait rien de nouveau. Ça fait des mois qu'il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes qui, depuis plusieurs mois, se sont noyées dans la Méditerranée. Assez opaque, hein, notre esprit. Pas seulement le nôtre, hein, mais l'esprit de tous les humains. Assez opaque par rapport à tout ça. C'est-à-dire que l'indifférence, eh bien, nous empêche de vivre la compassion. Nous empêche de vivre la bienveillance et l'amour. L'indifférence, c'est vraiment un voile, comme les autres facteurs perturbateurs. Et il y a des personnes qui disent, mais l'indifférence, est-ce que ce n'est pas ça le calme de l'esprit? Pas du tout. C'est un voile, l'indifférence. Le véritable calme de l'esprit, c'est effectivement un calme, un esprit qui n'est pas affecté, qui n'est pas blessé, mais qui est à 100% plein d'amour, de compassion et qui se remue pour les autres. La bodhicitta, hein, l'esprit de compassion, l'esprit d'éveil, est vraiment extrêmement puissant dans un esprit calme d'une personne. Dans l'indifférence, pas du tout. On ne voit pas, on ne ressent rien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion dans notre esprit qui peut se développer quand on est sous l'emprise de l'indifférence. Est-ce qu'on peut dire que cette indifférence, c'est l'absence totale de dukkha? Est-ce que notre esprit est vraiment heureux et paisible lorsqu'on se sent comme ça indifférent? Observez, quand vous faites quelque chose pour une personne que vous aimez, que vous agissez avec amour, que vous agissez avec bienveillance, compassion, avec joie, avec, etc. Mais comment est votre esprit? Il est plutôt large, il est plutôt ouvert, détendu, et là plutôt heureux. Et quand on est sous l'indifférence, notre esprit n'est pas de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment à observer de façon à en être sûr. Parce que la jalousie, c'est assez facile de savoir que la jalousie, il y a dukkha. C'est agréable pour personne d'être vraiment jaloux. Donc, il n'y a pas besoin de s'étendre pendant des heures. Mais l'orgueil, et là on aura fait le tour des 5 poisons, hein, mais l'orgueil, ça c'est très difficile de savoir déjà d'une part qu'il y a dukkha dans l'orgueil, mais de se savoir orgueilleux d'autre part. Ça c'est très difficile. En général, savoir que nous sommes orgueilleux, eh bien nous, pour le savoir, nous avons besoin d'un miroir. Et ce miroir, en général, eh bien c'est en général le maître spirituel. C'est les autres aussi, hein. Mais plus directement, c'est notre maître spirituel, quand on en a un, qui nous reflète, qui vraiment nous montre, quand on va le voir, que, eh bien, dans notre attitude, il y a pas mal d'orgueil. Et je vous ai déjà raconté, hein, mais j'ai vu des fois Ringo Rinpoche lors de certains entretiens, où je traduis, eh bien, il y a des personnes qui viennent pour raconter une expérience de méditation. Rinpoche, il est tout juste là dans son bouquin, hein, pendant que vous expliquez votre truc, hein, il est là comme ça, et puis à la fin, il vous dit, ouais, autre chose. En général, vous savez, là, on voit tout de suite si la personne est arrivée avec de l'orgueil ou pas. Hein. Parce qu'elle s'attend. Avec l'orgueil, on s'attend à une réaction, à une reconnaissance, à une, bah oui, à une attitude de la part de Rinpoche, qui va d'abord sans doute nous féliciter, nous dire « Ah bah c'est bien, c'est très bien, c'est une bonne expérience, et à partir de là, eh bien, continue comme ça, mon petit, c'est bien, voilà. » Et on ressort, on est tout content et tout fier. C'est pas pour nous blesser qu'il a cette attitude-là. C'est juste pour nous montrer que, eh bien, c'est très bien l'expérience que l'on a, mais il faut surtout pas s'attacher et saisir cette expérience. Parce que dès qu'il y a saisi, eh bien, dukkha apparaît et il y a fin de l'expérience. Et c'est assez difficile hein, de soi-même pour repérer ça. Alors voilà, dans cette première des quatre nobles vérités, moi je vous invite pendant le mois qui vient, eh bien, à vraiment observer votre esprit et à déceler à chaque fois que vous pouvez noter le dukkha. Et quand vous notez qu'il y a dukkha, qu'il y a une expérience de dukkha dans votre esprit, mais posez-vous la question vraiment à ce moment-là, mais que suis-je en train de saisir? Qu'est-ce que je suis en train de... à quoi je suis en train de m'agripper, quoi, et de solidifier? Et ça, c'est vraiment une attitude d'un méditant. Rappelez-vous qu'en langue tibétaine, être bouddhiste se dit Nangpa. Nang, en tibétain, ça veut dire dedans, intérieur. Un pratiquant bouddhiste, c'est celui qui voit la cause de sa propre souffrance comme étant à l'intérieur de lui-même. Et non pas comme étant à l'extérieur, c'est-à-dire les circonstances, les autres, l'autre qui m'a regardé de travers, l'autre qui m'a dit ça, la politique, l'économie ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui ne pratique pas, discuter avec cette personne de tout ce qui ne va pas chez elle. Et vous verrez que la cause de ce qui ne va pas, c'est toujours à l'extérieur d'elle-même qu'elle la cherche. C'est très rare les personnes qui se disent « Mais si je ne vais pas bien, si je souffre, s'il y a dukkha dans mon esprit comme expérience, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui cloche, quoi ?» Et ce qui cloche pour un pratiquant, eh bien c'est le fait de saisir tous les phénomènes. C'est le fait de saisir les circonstances. C'est le fait de saisir qu'aujourd'hui, eh bien, il fait froid, alors que j'avais peut-être envie d'aller marcher en forêt, et voilà. Eh bien, ça, c'est une insatisfaction qui naît. Est-ce que c'est vraiment la circonstance qui est à l'origine de cette insatisfaction, ou est-ce que ce n'est pas plutôt ma façon de réagir par rapport à cette situation-là? Et de voir que la cause, eh bien, c'est dans mon esprit, c'est mon esprit qui réagit de telle ou telle façon face aux circonstances. C'est extrêmement important de comprendre ça et de réaliser ça, parce que quand on est sûr que la cause de notre souffrance, c'est notre esprit, c'est le fait de saisir, mais on trouve la clé de la libération. C'est notre esprit la clé de la libération. C'est la non-saisie. C'est l'inverse. Donc ça, c'est, on arrive là à la troisième... quatre nobles vérités, et après c'est le chemin à la quatrième, et bien c'est quel est le chemin pour se libérer, en d'autres termes, c'est quel est le chemin pour ne pas saisir, pour ne plus saisir. Il n'y a que la saisie qui est le véritable poison et le véritable problème, quoi. Vous avez des personnes qui méditent depuis des années, qui utilisent des tas de méthodes, de guidame, de divinité, de récitation de mantras, de visualisation, et il faut que je joue de la cloche et du damaru, ici et là, etc. C'est très bien, mais tout ça, ce ne sont que des moyens qui doivent nous permettre de ne plus saisir. Si vous faites un rituel avec une très forte saisie, vous ne vous libérez de rien du tout. Donc, quel que soit la méthode que l'on utilise, il faut toujours se poser la question, est-ce que cette méthode me permet de ne plus saisir ou est-ce qu'au contraire, je continue de saisir? Et il ne faut pas hésiter de changer de méthode si on n'arrive pas à ne pas saisir alors qu'on suit telle ou telle méthode. Mais pour ça, il faut absolument être sûr que c'est la saisie qui est le véritable poison, quoi. C'est tout ce qu'enseigne Rinpoche. Ceux qui connaissent Rinpoche depuis des années, il n'enseigne que ça. C'est ça le Mahamudra. c'est Mahamudra, ce qu'on appelle le Mahamudra, c'est-à-dire l'équivalent de l'éveil dans notre lignée, c'est ce terme-là, hein, eh bien c'est expérimenter la non-saisie et stabiliser ensuite cette non-saisie. Quel que soit le phénomène qui apparaît dans l'esprit ou la circonstance dans laquelle on se trouve. Donc ne négligez pas cette première noble vérité, dukkha, et cherchez dans votre esprit à chaque fois que vous ressentez dukkha, eh bien faites le lien avec ce que vous êtes en train de saisir et qui provoque dukkha. Vous vouliez dire, Sébastien ?
Une question, je pense que c'est pas le moment,
c'est ? Si, c'est le moment.
C'est sur le terme saisie, parce que quand j'ai découvert ce terme il y a 3 ans maintenant, au début, pendant très longtemps, j'ai pas compris. Le vrai certain qu'on se repose maintenant là-dessus, c'est que ce que vous venez de dire serait intéressant sur le moyen d'être certain qu'on ne saisit plus. Saisie, c'est la pensée monte à l'instant où elle monte, elle est décollée de la conscience qui observe, ou alors c'est saisir. Pour vous, c'est la pensée monte, il y a toujours un petit moment qui peut être d'une fraction de seconde ou de quelques secondes où elle est collée, et c'est quand on s'en aperçoit qu'on s'en détache, et là, à ce moment-là, on se dessaisit de ça. C'est lequel des deux points ?
Il y a là, il y a beaucoup de personnes qui, ça rejoint votre question, qui pensent que la saisie, c'est le fait d'être conscient. Et c'est pas ça du tout. Être conscient, c'est tout à fait normal, logique. Donc quand une pensée s'élève, vous êtes conscient de cette pensée, il n'y a aucune saisie. Là, vous êtes conscient du phénomène. Vous êtes conscient de la présence de ce phénomène. Là, il n'y a pas de saisie. La saisie, ça vient après, c'est que lorsque vous solidifiez cette pensée, vous l'entretenez, vous ne la laissez en fait pas passer. Vous ne la laissez pas vivre sa nature d'impermanence. Mais vous la solidifiez, vous l'entretenez, et vous vous dites, ça serait bien, voilà. Alors là, vous êtes en train de saisir.
D'accord, c'est l'entretien de la pensée qui la saisit.
C'est même pas l'entretien volontaire.
Ah ben non.
C'est un mouvement de l'esprit, c'est plus fort que ce qu'on appelle la soif. La soif, c'est inné dans notre esprit que de s'agripper à quelque chose. Ça, c'est la soif. La saisie, c'est déjà plus grossier que la soif. Mais c'est pas quelque chose que l'on décide. Ça vient... Soif et saisie, ça se succède à cette vitesse-là. Hein. Mais c'est déjà plus gros. C'est plus grossier, la saisie. Ouais. C'est pour ça qu'on peut quand même travailler sur la saisie. On peut être conscient de la saisie, qu'on ne peut pas être conscient de la soif. Donc c'est trop en amont de travailler sur la soif, il faut travailler vraiment sur la saisie. On peut observer la saisie.
Parce que, pour compléter, si je peux me permettre, ce que je vois depuis le début, finalement, c'est que parce que c'est la journée, parce que je ne suis pas en méditation, etc., peu importe, une pensée va monter. Donc, pour moi, elle est automatiquement agrippée sur l'instant, je suis identifié à la pensée quand elle arrive. Et la plupart du temps, c'est quand elle va commencer à faire mal, à provoquer une contraction, que là, il va y avoir prise de conscience de l'identification à la pensée et lâcher prise.
D'accord.
Voilà, mais pas tout de suite au début. Quoi. Elle arrive, elle se colle, et après elle se décolle.
Bon.
Ce que je vis.
Voilà, alors c'est normal que ça se passe comme ça, mais plus on médite, plus le fait de se désagripper de la pensée, ça va devenir le plus tôt possible.
Voilà, oui, c'est ça qui se passe.
Voilà.
D'accord.
Voilà. C'est pour ça que, par exemple, c'est comme ça qu'il faut comprendre Rinpoche. Il continue d'avoir des pensées, il continue d'avoir des sensations, il continue d'avoir des perceptions. Seulement, dès que ça apparaît, il n'y a pas de saisie. Parce que c'est instantané chez eux. Mais c'est comme ça que à Bâle, je crois, le Dalai Lama, un journaliste lui a posé comme question, est-ce qu'il vous arrive encore d'avoir de la colère ? Et le Dalai Lama, à l'étonnement de beaucoup de personnes, a dit, oui, ça m'arrive encore. Et parce qu'on imagine que quelqu'un qui réalise l'éveil Bah, il n'y a plus rien dans son esprit, quoi. C'est comme je dis, un légume anesthésié qui est là. Il n'y a plus rien, il ne ressent plus rien. Non, non, il continue de, continue de fonctionner comme nous. Mais il y a une chose qui ne fonctionne plus, alors que ça fonctionne encore chez nous, c'est la saisie. C'est-à-dire que même s'il a un moment d'irritation, bien, à l'apparition d'irritation, mais l'esprit ne saisit pas. Donc cette irritation, en tant que phénomène, qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà. C'est tout. Et c'est ce qui donne cette équanimité chez eux, dans leur attitude, dans leur façon d'être. C'est ce qui donne cette équanimité. Il y a une égalité de qualité d'être, de présence, de bienveillance avec tout le monde, etc. Ça ne veut pas dire que Rinpoche n'est jamais irrité par quelque chose. Mais dès que ça s'élève, ça se dissout instantanément. Donc, il n'y a jamais d'irritation, il n'y a jamais de... Il n'exprime jamais cette irritation. Nous, il nous faut un peu de temps pour se désagripper. Voilà. Mais ça, c'est l'entraînement, c'est la méditation, eh bien, qui va faire que, petit à petit, cette vigilance, elle va être de plus en plus présente, mais quelle que soit l'activité dans laquelle on se trouve. Le Karmapa, il y a 15 jours à Berlin, disait en Occident, vous n'avez pas la possibilité de méditer 2 ou 3 heures par jour, vous n'avez pas la possibilité de partir en retraite longue durée dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, etc. Pratiquez autrement. Pratiquez dans votre quotidien. Faites en sorte d'avoir plus d'harmonie, de développer plus d'harmonie entre vous, de gentillesse, de bienveillance, etc. entre vous. Mais pour pouvoir pratiquer de cette façon-là, il faut avoir cette conscience de ce qui se passe dans notre esprit, mais tout le temps. Et c'est ça véritablement chiner le calme mental. C'est vraiment ça. On imagine que cette vigilance, ça doit être quelque chose de très dur. Il faut que je sois conscient, il faut que je sois vraiment conscient, etc. Je dis souvent, je prends souvent cet exemple, cette conscience, c'est la conscience qu'on a quand on conduit une voiture. Pas plus. On sait ce qu'on fait quand on conduit une voiture. Même si on parle à notre voisin. Même si on regarde le GPS, etc. Mais on est conscient de ce qui se passe, où on est, s'il faut tourner le volant, s'il faut rétrograder ou je ne sais quoi, on est conscient de ça. Et bien pour la méditation, cette conscience qui doit être présente dans notre esprit tout le temps, et bien c'est pas plus fort, pas plus
intense
oui, que ça. Le Bouddha disait, Ajahn Chah en parle beaucoup dans ses textes, le Bouddha disait que cette conscience c'est ce qui sait.
Ce qui sait.
Ce qui sait, ce qui connaît, ce qui sait. D'autres questions?
Rinpoche Potier, quand il est venu au mois de juin, quand il a parlé du progrès de la science au niveau du cerveau, tout ça, il a dit que notamment la méditation sur Chile et Lacton, quand on vérifiait l'activité cérébrale, était nettement inférieure à la méditation sur la compassion. Vous, alors, comment vous pratiquez la méditation sur la compassion? Est-ce que c'est ton même ou est-ce que c'est autrement?
Alors, pour moi, la méditation sur la compassion, c'est synonyme de la non-saisie. D'accord. Pourquoi? Parce que quand vous êtes persuadé que c'est la saisie qui fait apparaître dukkha dans votre esprit, que c'est la saisie qui est la cause de toute forme de dukkha, là vous ressentez véritablement de la compassion, une compassion profonde pour tous les êtres qui souffrent et qui saisissent et qui sont toujours en train de saisir tout ce qui se passe. Et cette compassion là elle se base sur la compréhension de la cause de dukkha. Ce n'est plus une compassion émotionnelle ou une compassion sentimentale, on va dire. Mais c'est une compassion qui s'élève parce que vous comprenez la cause de dukkha. Donc moi j'associe complètement la compassion à la non-saisie, en d'autres termes la bodhicitta relative à la bodhicitta ultime.
Donc c'est Shinya Lakthong en pratique, c'est pour ça que lui, comme il avait fait la différence, c'est pour ça que je lui ai posé la question.
Toutes les pratiques sont chinées Lactong. Vous parlez de Tonglen, la prise en charge de la souffrance d'autrui et donner le bonheur à autrui. Cette pratique-là, mais c'est chiné et Lactong. Et vous pouvez ramener, mais toutes les pratiques que vous connaissez, vous avez forcément chiné Lactong. Chiné, c'est le calme mental. Lactong, c'est la vision supérieure, ce qu'on appelle la vision supérieure. Bon. Les sutras n'enseignent pas autre chose. Mais les tantras n'enseignent pas autre chose. Ils enseignent des moyens pour mettre en pratique ces deux aspects. Dans une pratique des tantras, avec visualisation, un guidam, une divinité, etc., vous avez la phase de développement et la phase d'achèvement. Et bien ça correspond à Chiné et Lactong. Vous retrouvez toujours ces deux éléments. Le Mahamudra, ce qu'on appelle le Mahamudra chez nous, mais les Sakyapas ou les Gelugpas appellent ça le Madhyamika, les Nyingmapas appellent ça le Mahati, peu importe, ou le Dzogchen, peu importe, c'est toujours ce sont des termes qui définissent toujours la réalisation ou ce qu'on appelle l'éveil. On définit le Mahamudra comme étant l'union de Chiné et Lactong.
Mais c'est pour ça que ça m'avait surpris quand il avait montré la différence entre Chiné et Lactong avec la méditation sur la compassion. Il avait fait une nuance.
Parce que à mon avis, hein, mais ça on aurait dû poser la question, mais à mon avis, c'est parce que la compassion, dans le Mahayana, dans le grand véhicule, elle est considérée comme supérieure à Chiné et Lactong. Chiné et Lactong, ce sont des pratiques qui sont dans toutes les écoles, quels que soient les véhicules. Mais dans le Mahayana, dans le grand véhicule, la pratique de la compassion, être un bodhisattva, c'est supérieur à toute forme de pratique. Mais dans la pratique de la compassion, il faut qu'il y ait Chiné et Lactong, sinon... C'est pour ça que cette année, au Portugal, hein, vous y étiez, la Matsering qui nous refile l'organisation là, du prochain séminaire l'année prochaine, mais on le maintient à Porto parce que c'est moins cher qu'en France, et puis tout est déjà sur place, organisé dans un grand monastère chrétien, et on peut être 150 comme on était cette année. Hein. Mais pourquoi ? Parce qu'elle veut repartir plusieurs mois en retraite. Vous étiez là le dernier jour quand elle a dit ça devant Rinpoche, devant tout le monde, etc. Rinpoche, en riant, a dit « Ah oui, elle en attiring, elle veut réaliser l'éveil, mais elle n'est pas un bodhisattva. » Il a dit ça en riant. Mais il a quand même dit, quoi. Ce qui montre que dans le Mahayana, et ça c'était une façon de repréciser ça, que dans le Mahayana, ben, c'est la compassion, c'est la bodhicitta, qui prime tout, quoi. Autre chose ? D'autres questions ? Alors, pour votre... pour une info, le Dalai Lama sera à Strasbourg au mois de septembre 2016, donc dans un an, pour deux jours d'enseignement, et Bodhicharya France, hein, le centre ici, en est centre organisateur.
Carrément.
Ah bah oui. Sacha va à Paris pour la première réunion, là, la semaine prochaine, je ne sais plus quand. Pour la première réunion à la Fédération du Bouddhisme Tibétain, la FBT. Et on ne peut pas ne pas être organisateur en étant dans l'Est, quoi. On n'est que deux centres dans l'Est. Il y a un centre Sakyapa à côté de Strasbourg et nous, quoi. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais on aura besoin de la Sangha, quoi. Hein, des membres de la communauté, ça c'est sûr. Hein.
Septembre.
Oui, c'est dans un an. Mais vous voyez, les premières réunions commencent, là. Mmh. Il y a une association qui va être créée. Et puis, après, on va se répartir les tâches pour recevoir les inscriptions, loger les gens, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, il va falloir... Parce que c'est des milliers de personnes, hein. Mmh. Ça va se faire au Zénith, à Strasbourg. Donc voilà.
Génial.
Très bien.
Mais bon, en même temps, voilà, c'est très bien.
Bah, oui.
Et on va faire en sorte aussi que le Karmapa vienne en France l'année prochaine. Quoi. Alors, ou peut-être pas à Luce, mais ça serait pas mal. Quoi que vous savez, hein, cette année à Berlin, il est allé dans un centre au nord de Berlin, il y avait 15 personnes. Hein.
Ah oui.
Ouais. Alors, à mon avis, s'il vient à Luce,
il va falloir
passer des murs. Hein.
Oui.
Mettre au chapiteau. Ah oui. Enfin, voilà. Sinon, bah, que vous dire, le prochain séminaire au Portugal avec Rinpoche, donc ça c'est un séminaire international où toute la Sangha, toute la communauté internationale de Rinpoche se retrouve pour une semaine d'enseignement et de pratique. Donc ça fait, c'est nous qui avions mis ça en place il y a une dizaine d'années maintenant, il y a 11 ans, 12 ans. Ouais. On a fait 6 séminaires là en Alsace, quoi. Et puis après ça a été repris par Bodhicharya Portugal. Et l'année prochaine, ça se fera du 1er au 7 août. C'est la seule semaine de tout l'été où tous les Européens sont en vacances. C'est compliqué, hein, les vacances en Europe. Parce que si on le fait en juillet, les Allemands, notamment les Bavarois, ont école jusqu'à la fin du mois de juillet. Et les Scandinaves reprennent l'école à partir, en gros, du 10-12 août. Alors, c'est vraiment très calibré.
Remarquez, du coup, il y a comme une évidence que ça doit se faire, quoi.
Oui, et puis sachant très longtemps à l'avance, on peut prendre des billets d'avion longtemps à l'avance, comme ça, on peut les payer moins cher, quoi. Bien que l'été, les billets d'avion ne sont pas donnés, même sur les low cost. Hein.
Mais bon, si on les prend 4-5 mois avant,
ils profitent de la haute saison, quoi. Mmh.
Mmh. Oui, c'est vrai. C'est sûr que si c'est en plein hiver, ça ne sera pas pareil.
Voilà, quand je vais à Berlin, là, je paye 40 euros l'aller, quoi. Mmh.
Ah ouais.
Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Voilà. Voilà, suite au séminaire, eh bien, il faut que je mette en place un Mahamudra selon les 3 niveaux à Faro, au sud du Portugal. Donc j'y vais 3 fois en janvier, avril et juin. Et puis je dois aller à Londres aussi plusieurs jours. Et puis à Berlin, je continue d'aller à Berlin régulièrement, quoi. Voilà, et puis il y a Pont-à-Mousson qui ouvre.
Ouais.
Le 29 septembre, il y a une conférence que je fais à Pont-à-Mousson, et puis après je reprends le Tchuling régulièrement, comme les autres Tchuling, comme ici ce soir, comme les autres villes où je vais chaque mois. Voilà, autre chose? C'est bon, ça va? Bon, bah travailler sur Dukkha pendant ce mois-là, quoi. Ne craignez pas Dukkha, hein. Dès qu'il y a Dukkha qui se pointe, au lieu de tout de suite se dire non. Ça, c'est de l'aversion, c'est une grosse saisie, ça. Mais dites-vous, je la regardais en face, mais surtout, je la regarde passer, quoi. Puis vous voyez ce qui se passe dans l'esprit.
Ouais. Ah,
oui, non, allez-y.
Oui, parce que c'était très, très dur, c'est encore dur maintenant chez moi, ce truc-là, c'est que, comme vous dites le fameux comme ça, quand ça monte, parce qu'il y a un gros refus de ça.
Mmh.
Et moi, là où il y a quelque chose qui m'interpelle maintenant, c'est que, quand on parle d'Aïdama tout à l'heure, sur la colère, c'est que, je l'ai vu maintenant, et donc il faut que je retourne ça pour aller vers l'acceptation de cette première contraction, de monter de la colère ou n'importe quoi. Mmh. Mais c'est quelque chose de pas évident d'aller vers cette acceptation, et donc c'est là où il y a une forme de travail,
oui.
Où j'ai encore de la compréhension à voir aussi.
Oui, mais Sébastien, on ne peut pas accepter une forme de dukkha inacceptable pour le moment si on ne s'est pas entraîné à accepter des formes de dukkha tout à fait acceptables. Et c'est ça pour moi la méditation. C'est vraiment entraîner son esprit à chaque fois que l'on voit dukkha, mais une forme soft, entre guillemets, de dukkha, et de voir la saisie qui correspond à dukkha et s'entraîner à lâcher ça. Et c'est cet entraînement qui, dans quelques mois, quelques années, nous permettra de lâcher ce que l'on ne peut pas lâcher là maintenant. Et c'est la méditation, la pratique pour moi, c'est vraiment, comment dire, un entraînement, quoi. Et ce n'est que le fruit de cet entraînement. Il n'y a pas de miracle dans la pratique. Ça ne se produira pas un jour comme ça, parce que, oh tiens, aujourd'hui ça lâche, quoi. Non, ça lâche aujourd'hui, parce que depuis des mois, je m'entraîne à lâcher sur des choses où je peux vraiment lâcher. Voilà.
C'est bien de ramener un peu quelque chose de plus humble là-dedans.
Oui, c'est, il faut recommencer.
Il faut recommencer. Donner avec les bibelots et les enfants. Quoi.
Par exemple.
Comment c'est petit.
Et... Voilà. Et quand on saisit quelque chose, et qu'on se rend compte que là, bah, on a complètement saisi, qu'on pique une bonne colère, etc. Il ne faut pas se dire, oh, bah, je suis un mauvais méditant, oh, ça fait 10 ans que je pratique, mais j'en suis toujours là, etc. Ça, c'est encore une grosse saisie par rapport à ce qui est en train de se passer. Il faut se dire, eh ben là, j'ai bien saisi, quoi. Eh ben si je saisis ici, il faut que je m'entraîne. Et donc, c'est ça qui va nous remettre les fesses sur le coussin, quoi, régulièrement, etc., quoi. Voilà. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état à tous les êtres. Merci.
Merci.
Alors ce livre, hein, je ne sais pas si ce livre en route vers l'éveil, s'il y en a qui veulent se le procurer, j'en ai